Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal avec la disparition du pape François qui est encore à la une de l'actualité. Nouvelle page spéciale. Ses obsèques seront célébrées samedi matin, place Saint-Pierre. Nous allons y revenir. Mais avant cela, ces informations concernant les moments qui ont précédé sa mort. On en sait un peu plus grâce à l'infirmier qui était à ses côtés depuis sa sortie de l'hôpital où il avait été soigné pour une double pneumonie. Cet infirmier a témoigné dans les journaux italiens. Louis Salé pour Europe 1.
Il raconte avoir encouragé dimanche le pape à venir saluer la foule place Saint-Pierre à bord de sa papa mobile pendant 15 longues minutes. C'était juste après la bénédiction Urbi et Orbi de Pâques, dont les premiers mots ont été très péniblement prononcés par le Saint-Père. Après ce bain de foule, François a remercié son infirmier ainsi que toute l'équipe médicale qui a rendu possible cette dernière rencontre avec les fidèles. « Merci de m'avoir ramené sur la place », leur aurait-il dit. Dans l'après-midi, le pape a ensuite tranquillement pris son dîner, rapporte encore Vatican News. Mais vers 5h30, lundi matin, dans son lit, les premiers signes d'un malaise sont apparus. Frappé d'un AVC, François est tombé dans le coma plus d'une heure plus tard, sans souffrir et de façon rapide, raconte l'entourage médical qui s'est tenu à ses côtés jusqu'à sa mort, discrète. Presque soudaine, conclut le média du Vatican.
Et la mort du pape François au lendemain de Pâques a provoqué beaucoup d'émotions. C'est un peu comme s'il avait choisi son moment, nous a dit ce matin Jean-Charles Puzzolu, responsable de la rédaction francophone de Radio Vatican, qui était notre invité ce matin en direct de Rome.
Dimanche, François a voulu se donner, s'offrir à la foule et au pèlerin. Un collègue qui le connaît assez bien et qui avait pour habitude d'échanger souvent avec lui me disait, lorsqu'il est sorti de l'hôpital, en fait, il ne voulait pas décéder dans un hôpital. Il savait que ses jours étaient comptés. Il voulait s'éteindre tranquillement au Vatican, au milieu des siens. Il voulait s'éteindre de la meilleure des manières et je pense qu'il a fait ce cadeau de se montrer dimanche et de disparaître la nuit.
Depuis la mort du pape, l'organisation du Vatican s'est mise en marche pour la préparation de ses funérailles samedi, place Saint-Pierre à Rome. Et on connaît maintenant le programme des jours à venir.
Demain matin, la dépouille du pape François qui est actuellement exposée, alors non pas à la vénération de tous les fidèles, mais pour ses collaborateurs et pour les employés du Vatican, dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, qui a été, vous le savez, sa résidence tout au long de son pontificat, car le pape n'a jamais résidé dans les appartements pontificaux, mais dans cet hôtel que Jean-Paul II avait fait construire en 1996, toujours dans le Vatican. Donc François repose pour l'instant dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Le corps sera déplacé demain en procession à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Cette procession durera environ 1h30, entre 9h et 10h30. Le corps du pape François va traverser la place Saint-Pierre pour entrer par la porte centrale de la basilique vaticane et à côté de l'autel, au-dessus de la tombe du premier apôtre Pierre, eh bien, son corps sera exposé dans le cercueil à la vénération des fidèles et ce jusqu'à vendredi soir, avant que le cercueil ne soit refermé pour les funérailles de samedi matin.
Des funérailles qui se dérouleront en présence de nombreux chefs d'État ou de gouvernement. Emmanuel Macron, Donald Trump et son épouse, Volodymyr Zelensky, ont déjà confirmé leur présence. On sait aussi qu'il y aura une forte délégation argentine, le pays d'origine du pape François, délégation qui sera menée par le président argentin Milei, le roi et la reine d'Espagne, le prince William représentant la couronne d'Angleterre, le premier ministre britannique Keir Starmer et le président portugais, polonais et mexicain ont également confirmé leur présence. Tout comme la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, et la liste n'est pas close. Plusieurs centaines de milliers de pèlerins sont également attendus. Ils arrivent déjà à Rome pour rendre un dernier hommage au pape.
Demain, nous essayerons de venir et de voir le pape. Nous savons qu'ils ouvriront la basilique pour exposer son corps, donc nous allons tenter notre chance, car c'est un pape qui a évidemment marqué l'histoire de l'Église.
Nous sommes arrivés aujourd'hui après avoir appris la mort du pape. Et en tant que croyant, c'est très important pour nous de venir lui dire au revoir. C'est historique pour moi car c'est un pape que je trouvais très adapté à son temps. Donc je suis très triste de sa mort.
La mort du pape est aussi l'occasion de parler évidemment de son pontificat et de ce bilan. Le pape François a orienté son pontificat vers les pauvres, les exclus, les marginaux, ce qui a pu faire grincer quelques dents dans une église marquée par plusieurs tendances, nous a expliqué ce matin Jean-Charles Puzzolu.
Bien sûr qu'il y a plusieurs tendances dans l'église et bien sûr que François est assez clivant par son caractère, par le fait qu'il ait voulu aussi énormément réformer la curie, mais c'est peut-être aussi pour cela que ses pères et pour les croyants, l'Esprit Saint l'ont choisi, c'était pour remettre un peu d'ordre dans le Vatican, dans l'organisation de cet organe central de commandement de l'Église catholique.
Et il y est parvenu?
Il y est parvenu en partie, il y est parvenu, on peut dire, en ce qui concerne par exemple la transparence financière. Le Vatican n'est plus aujourd'hui considéré comme un paradis fiscal. En revanche, pour la réforme de la Curie, eh bien, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de la Curie, à Rome, il y a de nombreux cardinaux. Beaucoup ont été nommés par le pape François, mais même parmi ceux qui ont été choisis par François, il y a un peu de grogne. Normalement, les cardinaux de la Curie sont les conseillers du pape, alors que lui, il est allé chercher d'autres cardinaux en dehors de la Curie pour créer un conseil, pour diriger le Vatican, pour se faire conseiller. Et certains, à l'intérieur de la Curie, se sont sentis un petit peu écartés. Il y a fort à parier qu'aujourd'hui, dans le choix des cardinaux, lors du prochain conclave, cela rentrera probablement en ligne de compte.
Un conclave dont la date n'a pas encore été fixée, mais qui devrait s'ouvrir environ une semaine après les obsèques du souverain pontife, dans une configuration que nous a expliqué Jean-Charles Puzzolu.
Il y a 135 cardinaux électeurs aujourd'hui sur 252 cardinaux au total. Ça veut dire que 117 ne sont pas électeurs, ce qui veut dire qu'ils ont plus de 80 ans, donc ils ne participeront pas au conclave. Sur les 135 qui sont au conclave, il y en a 108 qui ont été créés par François. Mais encore une fois, parmi ces 108, comme je vous l'ai dit, il y a bien sûr des gens qui sont favorables à la ligne de François, mais qui voudraient bien mettre un petit peu un bémol là où ça a grincé parfois. Donc, extrêmement difficile de faire des pronostics. Peut-être nous verrons un Italien, parce que ça fait 3 fois que l'Italie passe son tour pour élire le successeur de Pierre, parce que les Italiens sont encore majoritaires, notamment dans le collège des cardinaux. L'Europe, en général, est majoritaire. Sur 252 cardinaux, il y a quand même 114 cardinaux européens. Puisque vous êtes de ce côté-là du globe, eh bien, il y a 4 cardinaux de l'Océanie. Donc, vous voyez, il y a une énorme différence. Il y en a 40 de la partie Amérique du Sud, Amérique centrale et des Caraïbes, 28 en Amérique du Nord, 37 en Asie. Donc il y a effectivement une répartition aujourd'hui un peu plus accentuée vers les périphéries du monde, mais l'Europe reste quand même encore largement majoritaire et représentative.
Jean-Charles Puzzolu, responsable de la rédaction francophone de Radio Vatican, qui était donc notre invité ce matin en direct de Rome. Une interview à retrouver sur notre site internet. Encore un mot sur la mort du pape François. Les fidèles qui ne peuvent aller à Rome lui rendent des hommages un peu partout sur la planète. C'est évidemment le cas en France et notamment à Paris, où la cathédrale Notre-Dame ne désemplit pas. Le reportage de Théo Grévin pour Europe 1.
Sur le parvis de Notre-Dame, la file d'attente s'étire sur une centaine de mètres dès 8h du matin. Retraités, touristes étrangers, étudiants, catholiques ou non, tous souhaitent honorer la mémoire du pape François.
Je vous avoue que j'ai pleuré, je l'assume entièrement.
Kélian souhaitait à tout prix venir avant de se rendre à l'université.
Pour moi, c'était une évidence de pouvoir venir ce matin pour pouvoir penser une dernière fois au pape François.
Comme lui, 700 personnes ont pu participer à chacune des deux messes célébrées dans l'édifice rénové. À l'intérieur, un portrait du pape François a été installé dans la cathédrale pour accompagner la prière des fidèles. Des fidèles appelés à lui témoigner leur gratitude et leur affection. Alix, 28 ans.
Lui rendre hommage et lui montrer que nous aussi, on est proche de lui et on veut l'accompagner et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous.
Et les catholiques rencontrés sont prêts à revenir dans les prochains jours. Le diocèse de Paris a lui ouvert un livre d'or où les fidèles peuvent inscrire des messages de remerciement et de prière.
Théo Grévin pour Europe 1.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Êtes-vous attristé par le décès du pape François? Si vous êtes attristé, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 83% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent impatients de connaître les résultats du recensement pour savoir combien nous sommes d'habitants en Nouvelle-Calédonie. Ils sont 17% à ne pas partager cette impatience. Le reste de l'actualité en métropole et dans le monde, en bref, en 10 jours, 13 établissements pénitentiaires ont été dégradés dans 9 départements différents en métropole. Cette nuit encore, ça a été le cas dans l'Oise, le Calvados, mais aussi à la prison de Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère, où doivent se rendre le Premier ministre et les ministres de l'Intérieur et de la Justice, qui doivent apporter leur soutien au personnel pénitentiaire. Emmanuel Macron est lui arrivé sur l'île de la Réunion, deuxième étape de sa tournée dans l'océan Indien après Mayotte. Il doit se rendre ensuite à Madagascar et à l'île Maurice. Et puis Steve Witkoff est attendu à Moscou d'ici la fin de la semaine, une nouvelle visite de l'émissaire américain pour négocier un cessez-le-feu en Ukraine avec Vladimir Poutine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit de son côté prêt à discuter directement avec le président russe. À 11h41, la première pause de ce journal. Dans un instant, nous en venons à l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
sont les semaines des alliances chez Creator. Jusqu'au 23 avril, profitez de moins 40% sur la deuxième alliance de votre duo. Rendez-vous dès maintenant dans l'une de vos trois boutiques Creator, Alma, 7e ou Païta. Creator, le plus grand show de bijoux de Nouvelle-Calédonie.
Faites plaisir à un ami avec un mois d'internet gratuit. Devenez parrain Lagoon et profitez d'un mois offert pour vous et le filleul.
Et c'est cumulable à volonté.
En plus, chez Lagoon, vous avez tout au même endroit.
Mobilis, internet, TV.
Les forfaits sont sans engagement et on s'occupe de tout.
Moins de papier, plus de zen.
Avec Lagoon, les bons plans font les bons amis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lagoon.nc/parrainage.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité en Calédonie et la province sud veut contribuer à la reprise de l'économie avec un coup d'accélérateur qui doit se concrétiser par l'adoption de plusieurs mesures lors de la séance publique de l'Assemblée qui se réunira demain. Elle propose trois dispositifs dont le premier s'intitule Sud Pro. Il s'agit d'accompagner les patentés et les TPE, les très petites entreprises qui sont un peu les oubliés des émeutes. Pour les aider, la province sud va insuffler 1 milliard dans la machine économique. 1 milliard qui devrait être consommé par les entreprises entre elles pour produire un effet multiplicateur. Sudpro est une plateforme de mise en relation d'entreprises qui utilise un système de points appelé Crédit Sud et qui permettra le versement d'aide à la trésorerie. Une plateforme sur laquelle s'inscriront les entreprises, explique la présidente de la province sud, Sonia Baquès.
Au moment où on s'inscrit, on dispose de 250 000 francs de crédit, mais cet argent n'est réellement distribué que quand il est consommé dans une autre entreprise. Donc il y a 1 milliard et en fait ne bénéficieront de ce milliard que les 4 000 premières entreprises qui auront consommé pour chaque les 250 000 francs qui leur seront attribués.
Avec des bonifications pour certaines?
Oui, on a souhaité prendre en compte deux situations particulières. Celle du Mondor Sud. Les gens qui consommeront en fait leur crédit dans des entreprises qui se situent au Mondor Sud auront un bonus de 20% pour l'utilisation de ces crédits. De la même manière que on a voulu là aussi favoriser les petites entreprises. Donc les gens qui vont avoir leur crédit pourront consommer dans n'importe quelle entreprise de la province sud, y compris des grosses entreprises. Donc leurs 250 000 francs, ils peuvent les utiliser pour acheter des matériaux, etc. Mais ils ont un bonus, là aussi de 20%, quand ils utilisent ces crédits dans une autre petite entreprise de moins de 3 salariés. Dans ce cas-là, ils ont un bonus de 20%.
La plateforme devrait entrer en vigueur dès le 5 mai si la mesure est adoptée demain par la province sud. Elle est un levier de relance pour les TPE.
Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un effet levier, c'est-à-dire que l'argent de la province sud, d'une part, n'est dépensé que quand il est consommé dans l'économie. Et donc, il y a un double effet, c'est-à-dire un effet pour l'entreprise qui bénéficie des crédits. Du coup, peut avoir 250 000 francs d'aide pour l'achat de ses matériaux, des prestations dont il a besoin. Et également pour l'entreprise qui reçoit, qui évidemment, du coup, a du travail. C'est ce que les entreprises attendent aujourd'hui. Et pour finir, les entreprises qui ont du travail, elles vont pouvoir aussi payer leurs charges, payer de l'impôt, ce qui a un intérêt, évidemment, pour l'ensemble de la machine économique.
Le second dispositif est intitulé Sud Jeunes et il propose une aide ciblée en faveur des jeunes diplômés calédoniens. La province fait le constat que du fait des conséquences des émeutes, les jeunes calédoniens se retrouvent en concurrence avec des salariés plus expérimentés et qui acceptent d'être moins payés étant donné les circonstances. Sud Jeunes est donc un coup de pouce pour aider les entreprises à embaucher des jeunes.
Le constat qu'on fait aussi dans nos services de placement, c'est que malheureusement, les entreprises, faute de visibilité, n'embauchent que pour des tout petits contrats, 3 mois très souvent. Là, l'idée, c'est d'encourager des contrats plus longs, puisque la prime à l'embauche se monte à 1,5 mois de salaire pris en charge par la province pour un CDD d'un an et 3 mois de prise en charge de salaire par la province pour un CDI dès l'instant où l'entreprise embauche un Calédonien de moins de 30 ans.
L'Assemblée de la province sud doit aussi adopter demain un dispositif baptisé Sud Santé qui vise à favoriser l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie pour le recrutement d'infirmiers. Il manque environ quelques 200 infirmiers sur le territoire et cela a de lourdes conséquences. La province va mettre en place des packs d'attractivité sur le court terme. Elle prévoit également sur le moyen terme des mesures pour inciter les étudiants infirmiers à s'installer en Nouvelle-Calédonie. Et enfin, sur le long terme, la province propose de former plus de Calédoniens à la profession d'infirmier avec 10 bourses par an. Toujours au chapitre économique, le deuxième jour du séminaire fiscal et social organisé par le gouvernement sous l'impulsion de Christopher Gigès en charge de l'économie. Il s'est ouvert hier matin en présence notamment des partenaires sociaux pour réformer le modèle social et fiscal. Et pour l'instant, les débats sont constructifs et productifs, nous a dit Christopher Gigès.
On a un esprit très constructif de la part des partenaires sociaux. Hier, on a eu une journée très dense d'avance sur la situation de l'emploi en Nouvelle-Calédonie et pour mettre en place des facilités pour permettre aux Calédoniens de retrouver du travail beaucoup plus facilement. Il y a un certain nombre de pistes qui ont été déjà définies, sur lesquelles les partenaires sociaux seront appelés à se prononcer dans les prochains jours, mais on voit qu'il y a un vrai consensus sur une plus grande simplification du marché du travail et des offres de demande d'emploi. Aujourd'hui, on a évoqué notamment le coût du travail et les dispositifs d'intéressement au sein de l'entreprise, mais on a des échanges qui sont vraiment très riches avec les différents partenaires.
Et demain, les débats porteront sur la réforme fiscale avant la clôture de ce séminaire vendredi qui permettra d'évoquer la suite à donner à ce travail de concertation. Au chapitre politique, les dirigeants du Rassemblement devant la presse ce matin, ils entendent dénoncer les nombreuses attaques à l'encontre d'Alcide Ponga, le président du gouvernement et président du parti, sur le sujet des dreux drapeaux sur le permis de conduire, Lionel Sabot.
Il est vrai que depuis quelques semaines, ce sujet particulièrement clivant ne cesse d'être sur le devant de la scène médiatique. Il n'y a qu'à écouter Vous avez un avis chaque matin sur Radio Rythme Bleu pour s'en rendre compte. Un sujet qui fait réagir notamment parce que le gouvernement est contraint, vous le savez, de payer chaque jour 150 000 francs d'astreinte financière pour ne pas avoir supprimé le drapeau du FLNKS sur les permis de conduire, comme le lui avait pourtant demandé la justice administrative. Ce matin, les dirigeants du Rassemblement ont regretté qu'Alcide Ponga, le président du gouvernement, mais aussi du Rassemblement, soit visé par ces attaques, alors qu'il se trouve en fait dans une impasse réglementaire. Xavier Rossard est le secrétaire général adjoint du Rassemblement.
Alcide Ponga, dès son élection à la présidence du gouvernement, a souhaité respecter la décision qui imposait donc la suppression du drapeau du FNKS sur les permis de conduire calédoniens. Il a donc passé consigne au secrétaire général. Ce secrétaire général nous a indiqué qu'il fallait qu'une décision passe par un projet d'arrêté et donc inscrit à la séance du gouvernement. Aujourd'hui, on se retrouve dans une impasse car le membre du gouvernement en charge des transports terrestres, Gilbert Thuyénan, refuse de contresigner ce projet d'arrêté et donc il nous est impossible de l'inscrire à une séance du gouvernement. Le président Ponga ne peut pas seul décider de respecter ces décisions de justice. Si on force l'inscription d'office un petit peu sur l'ordre du jour du gouvernement, on peut se retrouver avec deux recours sur la validité de ce projet d'arrêté qui viendrait modifier le permis de conduire.
Les dirigeants du Rassemblement devant la presse ce matin pour expliquer la nature donc de l'impasse réglementaire dans laquelle se trouve le président du gouvernement. Mais pas seulement, on retrouve Xavier Rossard.
Pour dénoncer les attaques que nous avons vues ces derniers jours sur les réseaux sociaux, notamment à l'encontre du président Alcide Ponga, on considère que ces attaques elles viennent décrédibiliser l'action du président du gouvernement. Et donc nous reprochons effectivement, notamment à Madame Nina Julier, de systématiquement remettre ce sujet sur la table, alors qu'elle sait très bien l'impasse politique et juridique dans laquelle nous sommes. Et donc nous venons un peu dénoncer cette pratique et nous considérons que l'unité des partisans de la France, alors même que nous négocions en ce moment l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, elle ne doit pas se jouer sur des sujets comme celui du permis de conduire.
Et là, de devoir faire face à ces attaques, les dirigeants du Rassemblement ont annoncé ce matin que le parti ne participerait pas à la réunion publique organisée par les partisans de la France à l'hippodrome de Nouméa ce soir. Une non-participation symbolique et qui ne remet pas en cause, bien évidemment, l'unité des partisans de la France dans le cadre des discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Jordan Courtois est le secrétaire général du Rassemblement.
Les discussions institutionnelles donc sur l'avenir du territoire, on les mène en étroite collaboration avec nos collègues loyalistes. On travaille beaucoup ensemble, on se cale, on se prépare avant toutes les réunions ensemble, on participe au bilatéral ensemble. La délégation qui est composée, la délégation non indépendantiste composée, on travaille tous très bien ensemble. Nous, on n'a aucun souci à séparer les deux choses. On continuera de travailler en étroite collaboration. Par contre, là, on est, nous, face à une position d'un électron libre qui est juste insupportable pour nous et on marque notre désapprobation.
Oui, j'ajoute que dans un communiqué diffusé lors de cette conférence de presse, les dirigeants du Rassemblement demandent à Nicolas Metzdorf, le président de Génération NC, de, et je cite, « mettre fin aux attaques internes et de rétablir l'ordre au sein de son mouvement ». Fin de citation.
Un nouvel équipement pour la commune de Bouloux-Paris. Il verra le jour dans quelques mois, puisque c'était ce matin la pose de la première pierre de la future base nautique de Bouraquet. Sur place, on retrouve Léo Fichou.
Oui, une cérémonie qui s'est déroulée en plusieurs temps, avec d'abord, comme à chaque fois à Bouloux-Paris, la diffusion du film de promotion économique de la commune. Un film apprécié par les habitants de Bouraquet, présents en nombre ce matin pour la pose de la première pierre de la future base nautique. Une base nautique dont le coût est estimé à 70 millions de francs. La communication, c'est bien, mais avec des actes, c'est encore mieux. Des paroles partagées par l'ensemble des élus présents ce matin des élus qui ont pris la parole à tour de rôle, Pascal Vittori, maire de Boulou-Paris en premier, suivi de Sonia Baquès, présidente de la province sud, mais aussi de Nadine Jalibert, représentante du Congrès, et de Catherine Merckx, représentante de l'État. Ils ont ensuite signé ensemble un parchemin qu'ils ont inséré dans la structure en bois préparée pour l'occasion, structure qui faisait office de première pierre pour rester dans l'esprit nature que représente Boulou-Paris. Pour l'instant, sur le terrain situé au bord de l'eau, bien évidemment, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est les fondations et une clôture. Mais d'ici quelques mois, lorsque les travaux seront terminés, le complexe accueillera un bâtiment, mais aussi un phare et des racks de rangement pour les embarcations. Je finirai par préciser que cette future base nautique de Bouraquet sera exploitée par le club de va de la commune. En direct de Bouraquet, Léo Fichou, RRB.
Et à l'issue de la pose de la première pierre de cette future base nautique, le maire de la commune s'est rendu à l'école maternelle Marthe Bourgine, dont une classe a été incendiée ce week-end. La rentrée n'a pas pu se faire normalement mardi car l'eau et l'électricité n'ont pas été rétablies. Des travaux sont en cours, nous a dit le maire de Boulou-Paris, Pascal Vittori.
On va pouvoir avancer sur les travaux. Il nous faut d'abord rétablir l'eau, l'électricité. On espère faire ça ce vendredi. Si tout ça est terminé vendredi soir, on pourra reprendre la rentrée lundi matin. Parce que ce qu'on souhaite, bien sûr, c'est que l'école puisse fonctionner normalement, que les élèves puissent revenir. Pour ça, il nous faudra également sécuriser la salle qui a été brûlée, empêcher la vue et l'accès à cet endroit pour les élèves.
Un dernier mot sur la reconstruction de cette classe. On nous disait entre 1 et 3 mois.
Oui, entre 1 et 3 mois. On essaiera encore une fois de faire le plus rapidement possible. Ce sont les délais qui ont été donnés par l'expert de l'assurance.
Du côté de l'enquête, un jeune de la commune de 15 ans a été arrêté. Il a reconnu les faits. Il est défavorablement connu de la justice, mais aussi par les équipes de la mairie.
Un jeune a été interpellé, mis en garde à vue, interrogé. Il a reconnu les faits. C'est un jeune qui avait déjà commis des actes délictuels assez graves. C'est un jeune que j'avais même reçu dans mon bureau avec sa maman pour lui faire la morale dès qu'il a commencé à déraper. Et malheureusement, il n'a pas su écouter ce qu'on lui avait dit, il n'a pas su revenir dans le droit chemin. C'est un jeune qui n'a malheureusement que 15 ans, qui va devoir rendre compte de ses actes devant la justice.
Le maire de Boulou-Paris, Pascal Vittori, au micro de Léo Fichou. La gendarmerie honore ses morts. Hier, 22 avril, plusieurs cérémonies ont été organisées pour saluer la mémoire des victimes de l'attaque de la gendarmerie de Fayaoué. C'était il y a 37 ans. Le 22 avril 1988, 4 gendarmes avaient été tués, Nicolas Legrand.
Oui, après un dépôt de gerbes le matin, place Birakem, c'est à 17h devant la stèle de la mairie annexe de Dimbéa que s'est tenue une autre cérémonie à laquelle a participé le général Mathéos, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie.
C'est important pour nous. La gendarmerie ne pleure pas ses morts. La gendarmerie honore ses morts, ceux qui sont tombés, ceux qui nous ont montré l'exemple aussi par leur engagement jusqu'au bout. Et la gendarmerie, c'est ça. Vous voyez, j'avais devant moi des gendarmes mobiles, des gendarmes territoriaux aussi, et je suis sûr qu'ils feraient preuve de la même vaillance s'il fallait un jour défendre les trois couleurs jusqu'au bout. Certains de nos anciens ont été distingués par le ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est tout à leur honneur et ça marque bien aussi que la gendarmerie est une grande famille parce que nous avons des anciens chez nous qui, de manière absolument gratuite dans tous les sens du terme, s'investissent pour les plus vulnérables d'entre eux, les plus âgés, les plus malades. Et ils méritent amplement d'être décorés pour leur engagement remarquable qui témoigne bien du côté familial de la gendarmerie, qui est notre richesse.
Une cérémonie animée par l'Amicale des retraités de la gendarmerie, présidée par Marie Viard. Chaque année, la douleur est la même, le souvenir est toujours aussi vif, c'est ce qu'il nous a dit. Encore plus à l'approche d'un autre anniversaire, celui de la mort du gendarme Molinari, tué au mois de mai de l'année dernière lors des émeutes. Écoutez Jean-Marie Viard.
Chaque année, nous célébrons ce 22 avril avec ferveur et avec foi, et toujours à 7h, 17h. C'est notre heure, c'est l'heure à laquelle on est en toute tranquillité et on veut se recueillir en bonne condition. Dans un mois, nous allons célébrer malheureusement le premier anniversaire du décès de Nicolas Molinari. Et là aussi, ça va nous tenir à cœur, puisque nous tenons absolument à célébrer et à honorer la disparition de Nicolas, jeune gendarme. Ça nous tient à cœur absolument vis-à-vis de nos camarades actifs, mais aussi vis-à-vis de la famille de Nicolas.
Et au cours de cette cérémonie, Johan Lecourieux, le maire de Dimbéa, a remis 3 médailles de la jeunesse et des sports à des gendarmes civils.
Une nouvelle pause à 11h55. Dans un instant, la suite de l'actualité en Calédonie et l'actualité dans la région.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Infomag, la suite de l'actualité sur le territoire. On retrouve Jean-François Baudin.
Avec cette question, comment lutter contre les violences chez les jeunes? Le lycée d'Ocamo a choisi la prévention comme mode d'action. Ce matin, les lycéens ont assisté à plusieurs ateliers de sensibilisation. Charlotte Coulson.
Oui, depuis 7h30 ce matin, les jeunes du lycée d'Ocamo sont reçus par des professionnels de nombreux secteurs avec un sujet à l'ordre du jour, les actes violents dans les relations entre les jeunes, au sein des familles et particulièrement envers les femmes. Ces différents ateliers visent, selon le documentaliste du lycée, Daniel Collet, à mieux identifier les violences pour ainsi mieux les éviter.
Pour conscientiser les élèves sur les relations garçon-fille, sur les rapports de domination souvent qui s'exercent. Pour eux, c'est pas grave de taper une fille parce que c'est leur cousine. Donc cette violence généralisée dans les gros mots aussi, dans les attitudes, on voulait qu'ils prennent conscience que c'est de la violence et que ce n'est pas acceptable. Il faut qu'ils prennent conscience que des actions ou des mots violents du quotidien, dans le cercle familial ou à l'école ou entre amis, il y a parfois des niveaux de violence qu'il faut savoir repérer et considérer comme tels. Donc on en a fait intervenir la police, bien sûr, pour le cadre légal. On a fait intervenir des comédiens de théâtre pour les mettre en situation de violence, pour identifier vraiment les situations de violence, comment réagir. Donc essayer de voir comment identifier d'abord et puis essayer de désamorcer si c'est possible, dénoncer le cas échéant et comment réagir de manière générale à ces actions de violence.
Et les lycéens rencontrés ce matin ont notamment pu assister à un atelier du bureau des victimes de la police. Les intervenantes leur ont présenté un outil très utile pour identifier les violences, le violentomètre.
Il a confiance en toi.
C'est pour la violence conjugale. On parle des degrés de violence qu'il peut y avoir entre un couple. Et puis il y avait des phrases et on devait replacer en fait sur un violomètre. Et on devait placer chaque phrase dans chaque zone.
Ben en fait, ça parlait des différentes étapes, en fait, comme tout va bien, ce n'est pas normal. Et la dernière étape, c'est par exemple, quand tu as une arme, ben, c'est très grave et tu es en danger.
Ça nous apprend à ne pas reproduire ces erreurs.
Et de nombreuses personnes et associations sont intervenues au cours de la matinée. Par exemple, le collectif des Femmes en Colère, un professeur de self-défense qui a pu expliquer aux jeunes comment désamorcer des situations de tension sans violence. L'association Prisme a abordé les questions de consentement dans les relations affectives et sexuelles. Et enfin, le vice-rectorat était aussi présent, notamment pour parler de harcèlement à l'école.
Et puis, les jeunes élus de la mairie de Nouméa ont découvert ce matin des entreprises calédoniennes. Une vingtaine de conseillers municipaux juniors s'est rendue à Newrest et à Sokalais pour en apprendre plus sur les métiers liés à la restauration.
Du produit à l'assiette, il y a de nombreux pas. Seulement, ces étapes de fabrication sont souvent invisibles pour les enfants qui découvrent leur yaourt dans leur frigidaire ou leur pastèque dans leur plateau de cantine. Les visites de ce matin leur ont donc permis d'en apprendre plus sur les coulisses de la restauration scolaire, mais aussi la fabrication de produits alimentaires du quotidien. Et c'est avec beaucoup d'intérêt et de curiosité qu'ils ont franchi la porte des deux usines ce matin.
On a visité Newrest.
Bah, c'était plutôt bien parce qu'on a visité tout ce qui était chambre froide, là où ils décongèlent tous les repas. Ils nous ont tout expliqué.
Oui, on a appris beaucoup de choses.
Quand ils coupent la pastèque, ils mettent une journée entière à couper 1,7 tonnes de pastèque. Juste une journée, c'est quand même incroyable de travailler pendant une journée juste pour une seule étape.
La crème fraîche, ça se présente comme ça. Regardez, Bruno, il ouvre un carton. Et on appelle ça une poutre aseptique.
On a vu du thermolactique et il nous expliquait que c'était pour faire du yaourt.
Là, il y a les yop et du coup, bah, ils leur mettent leurs étiquettes et du coup, bah, ils vont les envoyer dans les camions et ça va arriver dans les magasins.
On a appris plein de nouveaux trucs.
Et pour la ville de Nouméa, l'intérêt est de montrer à ces jeunes comment leur nourriture est fabriquée, mais aussi de valoriser les entreprises calédoniennes. Carmen Jeannette est coordinatrice des actions éducatives au sein de la mairie de Nouméa.
Alors en fait, ce sont deux usines calédoniennes et l'intérêt c'était de montrer en fait aux enfants les coulisses en fait de préparation. Quand ils mangent un repas à la cantine, eh bien qu'est-ce qui se passe avant? Comment est-ce qu'on prépare ces repas-là pour que ben voilà, ils réalisent qu'il y a un temps de préparation, il y a tant de personnes qui travaillent pour ce menu. Donc là, ils ont vraiment réalisé que voilà, c'était organisé, c'était préparé. L'intérêt aussi, c'est qu'ils sont ambassadeurs de ce qui se passe en Calédonie, des entreprises calédoniennes, il faut les valoriser. Ça permet voilà, d'éveiller leur curiosité et peut-être effectivement d'avoir des idées, de savoir ben, peut-être une idée de métier, pourquoi pas.
Et la prochaine activité des conseillers municipaux juniors sera un atelier recyclage pour apprendre à trier et à valoriser ses déchets.
L'actualité dans la région est d'abord ce projet de loi concernant l'éducation à Wallis et Futuna qui a été présenté en Conseil des ministres. Il est porté par Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, et par Manuel Valls, le ministre des Outre-mer. Il vise à transférer à l'État les personnels enseignants du premier degré à Wallis et Futuna, Nicolas.
Oui, Wallis et Futuna qui connaît un régime de concession à la mission catholique locale, régime qui est en vigueur depuis 1969. Ce projet de loi, en fait, il est né d'un mouvement de grève important survenu en mai 2023. Les enseignants du premier degré demandaient à intégrer la fonction publique d'État. Le conflit avait pris fin en juillet 2023 avec la signature d'un protocole d'accord engageant l'État à mettre fin à ce régime spécial. La réforme proposée permettra la mise en place d'un dispositif d'intégration des enseignants concernés dans la fonction publique de l'État, notamment en prévoyant un accueil dans le corps des professeurs des écoles. L'État assurera directement la gestion des écoles primaires et les enseignants du premier degré de Wallis et Futuna pourront ainsi bénéficier de nouvelles perspectives de carrière, une meilleure reconnaissance de leur fonction et une revalorisation salariale. Ils pourront toutefois choisir de cotiser pour leur retraite au régime spécial de la fonction publique d'État ou alors de rester affilié à la Caisse des prestations sociales de Wallis et Futuna.
Et puis l'actualité dans la région nous emmène également à Fidji où une joute verbale a opposé l'ambassadrice des États-Unis à Suva, à son homologue chinois, au sujet des droits de douane imposés par l'administration Trump. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Xu Chan a déclaré que la décision prise par les USA d'imposer, je cite, ces droits de douane irresponsables à leurs partenaires commerciaux mondiaux était, je le cite toujours, absurde, égoïste, désastreuse et intimidante. Nous nous opposons fermement à cette politique autoritaire, a-t-il poursuivi, non seulement pour protéger notre souveraineté, nos intérêts et notre sécurité, mais aussi pour défendre l'intérêt commun de l'humanité. L'ambassadrice des États-Unis à Suva, Marie Damour, a déclaré en réponse qu'il était, je la cite, « inquiétant qu'un pays qui prétend être l'ami des îles Fidji tente de saper publiquement les relations bilatérales que les îles Fidji entretiennent avec l'un de leurs partenaires ». Ces propos sont une insulte aux dirigeants des îles Fidji et un manque de respect envers leurs habitants, a-t-elle estimé. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est midi 3, on va refermer ce journal dans un instant après une dernière pause avec l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Besoin d'un nouveau véhicule? Alors rendez-vous au Village Automobile à Nouméa PK4.
Eh oui, le Village Automobile, c'est le seul endroit qui regroupe 11 grandes marques de véhicules neufs.
Et jusqu'au 10 mai, profitez de nos prix les plus bas et venez essayer votre nouveau véhicule parmi nos marques. Chevrolet, Citroën, DS Automobile,
Great Wall Motors, Haval, Isuzu, Mercedes,
Opel, Peugeot, Power et Subaru.
Le Village Automobile, un seul endroit et des offres de folie. Le Village Automobile est ouvert en continu du lundi au vendredi et le samedi jusqu'à 11h30. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Alors le football d'abord, avec ce matin un match en retard de la 29e journée de Ligue 1, Nantes recevait le PSG, Nicolas.
Oui, les Nantais, les joueurs d'Antoine Tomkoumboiré qui ont réussi à tenir en échec les Parisiens, score final un but partout, alors qu'ils étaient menés depuis la 33e minute et un but de Vitinha, les Canaries ont égalisé dans le Money Time par Douglas Augusto. Un point important, hein, évidemment, pour les Nantais dans la lutte pour le maintien. Ils possèdent désormais 4 points d'avance sur Le Havre, barragiste, et Saint-Etienne, le premier relégable. Le Paris Saint-Germain, de son côté, reste invaincu en Ligue 1 et possède désormais 23 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille. Les Parisiens, qui, je le rappelle, sont déjà sacrés champions de France.
Parlons maintenant judo avec un Calédonien engagé avec l'équipe de France au championnat d'Europe.
Oui, après une médaille de bronze au Grand Slam de Paris début février et une médaille d'argent le mois dernier au Grand Chelem de Géorgie, Alexis Mathieu espère décrocher l'or cette fois-ci. Il est dans la catégorie des moins de 90 kilos des championnats d'Europe de judo qui ont lieu dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche au Monténégro.
Et puis du cyclisme sur piste avec cette très bonne nouvelle pour deux jeunes Calédoniens.
Oui, Louis Chavitz et Hervé Salin ont été sélectionnés en équipe de France et ils participent cette semaine à un stage sprint qui se tient dans la région parisienne, plus précisément au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une fierté évidemment pour le président du comité régional de cyclisme de Nouvelle-Calédonie, Stéphane Coulon.
Ouais, c'est,
c'est pas encore un aboutissement, mais en fait, c'est le résultat déjà d'un travail de formation au niveau de la piste calédonienne qui amène petit à petit des résultats et des jeunes qui montent en performance avec le temps qui passe et le travail fourni. Ça fait son bonhomme de chemin, je vous le dis, hein, c'est des conséquences d'un travail conséquent et d'une équipe d'encadrement qui est à la hauteur et qui parvient à créer de l'engouement au niveau de la jeunesse. Et derrière, nos deux têtes d'affiche que sont Louise et Hervé, nous avons d'autres jeunes qui commencent à monter dans les niveaux de performance. Nous avons bon espoir cette année, notamment pour les championnats de France de l'avenir, d'emmener une équipe très compétente et avec des objectifs assez ambitieux.
Louise Chavitz était en stage hier et lundi avec les moins de 19 ans. Hervé Salin débute son stage aujourd'hui. Ça va se poursuivre jusqu'à vendredi avec ce coup-ci les moins de 23 ans.
Et enfin, un petit mot de tennis pour vous signaler que Mélodie Dalle vient d'être élue bénévole du mois par la Fédération française de tennis. Une belle reconnaissance pour la nouvelle présidente de la Ligue de tennis de Nouvelle-Calédonie qui souhaite redonner une dynamique au sport de raquette sur le territoire.